Et sur Radio Shalom, nous sommes en direct avec François Zimeret. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur de France, vous êtes avocat. On va vous retrouver régulièrement sur l'antenne de Radio Shalom afin de développer certains sujets avec vous. Et cette semaine, on a choisi d'évoquer l'affaire Carlos Ghosn sous un angle bien particulier. Car il y a quelques jours de cela, c'était aux alentours du 24 novembre, un panel d'experts de l'ONU a réussi à condamner les méthodes employées par la justice japonaise. Ce conseil d'experts indépendants travaillait en fait pour le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et je crois savoir, François Zimeret, que vous n'êtes pas non plus étranger à cette condamnation.
Oui, vous savez, dès que Carlos Ghosn a été incarcéré, j'avais été, comme beaucoup de gens d'ailleurs, certainement beaucoup de vos auditeurs, très choqué des méthodes employées par la justice japonaise, et il m'était apparu que cela relevait vraiment de ce que l'on appelle une détention arbitraire, c'est-à-dire une détention qui fait fi de toutes les règles de droit qui encadrent normalement par des traités les pratiques des juridictions, des pays qui ont adhéré à ces traités. Et je vous rappelle qu'il a été jeté dans une prison sans l'autorisation de voir un juge, sans être défendu par un avocat, que la lumière était allumée de jour comme de nuit, que ces détentions se sont prolongées successivement jusqu'à 140 jours, qu'ensuite il a été libéré sous une caution considérable avec l'interdiction absolue de parler même au téléphone avec sa femme, de la voir, bref, sous aucun prétexte et de façon totalement illimitée. Et nous étions venus, nous, les avocats, à la conclusion que jamais il n'aurait droit dans ce pays à un procès équitable. Parce qu'au fond, il avait été jeté en prison pour faire échec à un projet de renforcement de l'alliance Renault-Nissan, c'est-à-dire à un renforcement du contrôle de la France sur le fleuron de l'industrie japonaise. Et de cela, les Japonais ne voulaient à aucun prix. Et le seul homme capable de réaliser ce projet industriel, c'était Carlos Ghosn. Et donc nous avions déposé une plainte devant cet organe des Nations Unies qui s'appelle le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est assez peu connu, et qui est un panel d'experts réputés pour leurs compétences, leur impartialité, leur courage aussi politique. C'est d'ailleurs sous l'initiative d'un Français, non pas René Cassin, mais Louis Jouanet, que cette commission s'est mise en place il y a une trentaine d'années. Et on lui doit beaucoup de libérations, beaucoup de décisions très, très courageuses dans le monde. Et c'est au terme de 18 mois de réflexion, de travaux, cette commission a conclu, un, que la détention était arbitraire, deux, que la procédure qui lui est infligée n'était pas conforme aux règles du procès équitable, c'est-à-dire que c'est un procès injuste, et a enjoint le Japon même de réparer le tort qui lui a été causé. Donc c'est une décision très, très forte et très importante. Je sais que ça surprend parce que ce n'est pas le public habituel qui passe devant cette commission. Carlos Ghosn, ce n'est pas le profil habituel. C'est souvent des défenseurs des droits de l'homme, ce sont souvent des gens totalement démunis. Mais si on ne défend pas les principes pour ceux qui sont dans la lumière, pourquoi le ferait-on pour ceux qui n'ont aucun pouvoir ?
François Zimeret, on précise que ce conseil d'experts n'a pas jugé cette affaire sur le fond, mais vraiment sur la forme.
Elle n'a pas jugé sur le fond, elle l'a encore moins jugé de façon politique. Je sais qu'on peut critiquer le Conseil des droits de l'homme sur certaines de ses positions politiques, et on a raison de le faire, et notamment sur cette antenne d'ailleurs, et on sait à quoi je fais allusion. Mais là, pas du tout. C'est certainement ce que l'ONU produit de meilleur. C'est-à-dire des experts qui sont là pour dire, voilà, il y a des traités internationaux qui définissent ce que sont les droits fondamentaux. Si ces traités ne sont pas appliqués correctement, alors la Déclaration universelle des droits de l'homme, si chère à René Cassin, sera lettre morte. Et donc, il veille à cette application. Alors, il ne se prononce pas sur le fond de l'affaire, bien sûr, mais c'est quand même important de savoir, à un moment d'ailleurs où en France certains manifestent contre des violences policières, et bien que la violence judiciaire, ça existe aussi, et c'est pas moins révoltant.
Alors, on va parler du Conseil des droits de l'homme avec vous dans un instant, mais cette décision a des implications, forcément. On sait que, par exemple, il y a deux Américains dans l'affaire Carlos Ghosn qui doivent être extradés vers le Japon pour être jugé pour complicité d'évasion, notamment, dont un ancien membre des forces spéciales américaines. Et il y a leurs avocats aujourd'hui, avec cette condamnation du Japon, qui disent bah non, nous, on ne peut pas envoyer des citoyens américains dans un pays qui ne respecte pas les droits élémentaires au procès équitable.
En effet, il faut savoir que envoyer quelqu'un devant la justice japonaise, c'est envoyer quelqu'un devant une justice qui n'a de justice que le nom, mais en réalité, où il n'y a pas, soyons plus précis, il n'y a pas vraiment de juges qui sont capables au Japon d'ordonner la libération de quelqu'un contre le souhait d'un procureur. Je me souviens d'une scène que nous ont raconté les avocats japonais dans cette affaire où on demandait s'il y avait eu un accord secret entre le parquet et un haut responsable de Nissan. Donc les avocats se tournaient vers le juge et lui demandaient est-ce qu'il y a eu cet accord secret. Le juge se tourne vers le procureur. Y a-t-il eu cet accord secret entre vous, le parquet et le procureur et le haut responsable de Nissan pour poursuivre M. Ghosn et surtout exonérer cette personne? Réponse du parquet, nous ne sommes pas obligés de répondre. Le juge se tourne vers les avocats en disant ils ne sont pas obligés de répondre. Donc, si vous voulez, c'est un pays qui à bien des égards est un pays exemplaire, qui nourrit notre imaginaire, qui est en avance sur beaucoup de choses, mais pas sur la procédure et pas sur les mœurs, sur certains aspects de la société. Et moi, je serais très heureux si cette affaire conduisait à une réforme de la procédure pénale japonaise, parce que derrière le cas de Carlos Ghosn, il y a des milliers de personnes qui souffrent de cela. Il y a des pères français ou européens qui ne revoient pas leurs enfants parce que lorsqu'ils sont mariés avec ou divorcés d'une femme japonaise qui part avec l'enfant, eh bien, il n'a plus aucun droit sur cet enfant qui peut grandir dans l'ignorance, dans l'absence totale de contact avec leur père. Il y a des situations dramatiques, il y a l'application brutale de la peine de mort. Vous savez que dans la prison où était Carlos Ghosn, eh bien, on pend et les familles des suppliciés doivent payer la corde pour récupérer les corps. Donc c'est aussi ça le Japon, c'est aussi cette réalité-là, pas simplement un pays d'avant-garde et une civilisation immense et extrêmement sophistiquée que nous admirons, mais c'est aussi cela et je pense qu'il faut encourager les défenseurs des droits fondamentaux au Japon à réformer ce système.
Alors, François Zimeray, on va parler du Conseil des droits de l'homme. Vous l'avez évoqué brièvement et on en parle effectivement très souvent sur Radio Shalom. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'est pas connu, je dirais, pour son impartialité. C'est peut-être l'organe qui a le plus condamné l'État d'Israël. Et c'est un organe de l'ONU où figurent des pays alors, qui, eux, pour le coup, ne sont pas le Japon et qui ne respectent en aucune manière, aussi bien le droit de la défense que le procès équitable, voire même la liberté d'expression. Un mot quand même sur ce paradoxe.
C'est vrai, et j'ai connu cette instance de très près lorsque j'étais ambassadeur et que j'allais aux Nations Unies, et d'ailleurs, et que j'ai fait plusieurs fois même campagne pour l'élection de la France au Conseil des droits de l'homme. C'est vrai ce que vous dites, mais enfin, ce Conseil est le reflet du monde. Donc, la question est de savoir est-ce qu'on livre ce combat pour plus de justice, plus de justesse, plus d'équilibre, d'équanimité est-ce qu'on le livre, dans ce cas-là, on le livre à l'intérieur de la Société des Nations, enfin de ce qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme aujourd'hui, ou est-ce qu'on claque la porte, on dit mais il n'y a pas de même façon que. Il n'y a pas de. C'est la même chose pour l'environnement, il n'y a pas de planète B, si vous voulez. C'est le reflet du monde et le combat de l'opinion, le combat pour faire connaître, pour rééquilibrer les positions, il doit se faire dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, le bilan du Conseil des droits de l'homme, il peut être à la fois très, très choquant quand on voit effectivement cette obsession à condamner Israël systématiquement. Dans certains domaines, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des grandes conventions internationales sur la torture. Il y a aussi ces rapporteurs spéciaux qui peuvent prendre des décisions et faire libérer des personnes qui sont incarcérées de façon tout à fait indigne aux quatre coins du monde et qui n'ont pas d'autre recours que celui-là. Donc voilà, c'est un bilan contrasté. Je dirais qu'il ne faut pas condamner... Il faut condamner les errements, des Nations Unies au nom des valeurs de la Charte des Nations Unies, mais il ne faut pas condamner les Nations Unies au nom de leurs errements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ce combat pour plus de justice, notamment vis-à-vis de l'existence d'Israël. Alors, la politique d'Israël peut être discutée ou critiquée comme celle de tous les pays, mais enfin, son existence, sa légitimité, la lutte contre l'antisémitisme, ça doit être au cœur des combats droits de l'homme. Ça, il faut mener ce combat, mais il ne peut pas se mener ailleurs. Il faut le mener là. Et vous savez, vous avez, comme toujours, des pays qui seront toujours du côté d'Israël, des pays qui seront toujours contre, et puis vous avez l'immense majorité, c'est comme ça dans la vie, des pays qui sont entre les deux et qu'il faut convaincre. Et ce travail doit se faire dans cette enceinte-là. C'est un combat difficile, parce que c'est parfois un combat contre l'opinion publique, contre les préjugés, contre des préjugés façonnés par la presse, par l'histoire, par la manipulation. Par le non-maladresse aussi, hein, et par les maladresses de nos amis, ça peut être aussi le cas. Mais ce combat, il faut le mener sans relâche. C'est une bataille qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas oublier ce que les Nations Unies et la justice internationale doivent à quelques grandes figures d'engagement juive. Je pense à René Cassin, qui était à la fois... l'un des pères du Conseil des droits de l'homme, le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et aussi le président de l'Alliance israélite universelle. Je pense aussi au rôle joué par Israël dans l'invention de la justice internationale. Vous savez, Israël critique beaucoup la justice internationale, et on sait pourquoi. Mais enfin, quand on va chercher un Allemand en Argentine, pour le juger en Israël à raison de crimes commis en Pologne, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'invention de la justice internationale? Donc c'est un grand progrès qui doit beaucoup à la souffrance et à l'engagement du peuple juif. Et dans ce progrès, je pense que le monde juif ne doit pas être absent.
François Zimeret, merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien ambassadeur de France et avocat, et on vous retrouvera toujours avec un très grand plaisir, mais cette fois régulièrement sur l'antenne de Radio Shalom dans cette édition. Merci à vous.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.